La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Longeau.
Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons l'exploration d'une journée particulière, d'été et l'oscola, grâce aux deux co-directeurs de l'ouvrage, Diane Bracco et Arnaud Duprat, ouvrage publié aux éditions universitaires de Dijon. Bonjour Diane.
Bonjour.
Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors, cette journée particulière va finir par s'achever. Et cette journée particulière, nous allons l'écouter à travers un dernier extrait. Elle va s'achever à la fois pour Gabriele, le personnage interprété par Marcello Mastroianni, et pour Antonietta, personnage interprété par Sophia Loren. Nous écoutons.
Sono quasi pronto, eh?
Fate pure, abbiamo tempo.
A che ora parte il battello?
Tra 3 ore.
Immaginate un Don Chisciotte a 18 anni, viso lungo, zigomi sporgenti, segno di scaltrezza. Tanto più penosa per il giovane D'Artagnan.
Comment ressentez-vous cette dernière scène, Diane ?
Alors, c'est une scène très chargée d'émotions, puisque c'est la fin de la journée particulière. La famille est revenue à la maison après le défilé. Gabriele est emmené par des policiers en déportation. Il prépare sa valise calmement, avec une tranquillité assez surprenante. L'attitude même des policiers est assez déconcertante, puisqu'ils l'attendent et lui donnent le temps nécessaire pour préparer ses affaires. Et Antonietta revient à sa vie, et en même temps, elle n'y revient pas complètement, puisqu'elle conserve une trace de cette journée, une trace matérielle, qui est le livre des Trois Mousquetaires, l'exemplaire des Trois Mousquetaires que Gabriele lui a offert, et dont elle entame la lecture. Et on peut dire que d'une certaine manière, le livre matérialise la mue qui s'est opérée ou commence à s'opérer chez le personnage, qui va pouvoir accéder à une autre réalité. Pendant ce temps-là, le mari s'est mis au lit, la somme de la rejoindre, alors on ne l'entend pas ici, mais la somme de le rejoindre au lit pour concevoir un septième héritier, exalté hein, par le défilé auquel il a assisté. Mais au lieu de le rejoindre, elle se met à lire, ce qui annonce une possible métamorphose du personnage. Et donc beaucoup d'émotions aussi, parce qu'en même temps, la société reste ce qu'elle est, cette société fasciste, dont la présence sonore se rappelle à nouveau à nous à travers l'hymne que l'on entend jusqu'aux dernières secondes.
Et vous, Arnaud ?
Évidemment, pour faire suite aux propos de Diane, la différence entre les personnages et le spectateur, c'est que le spectateur sait ce qui va se passer ensuite. Et on sait que leurs problèmes sont loin d'être finis. Ce qui peut minimiser effectivement cette fin avec le livre, c'est-à-dire que si effectivement il y a une mue qui s'est opérée chez elle, chez Antonietta, la route va être encore longue, et d'autant plus longue qu'on sait que tout ce qui va se passer ensuite avec la Seconde Guerre mondiale, ça ne va pas être facile, ni pour l'un ni pour l'autre.
Oui, et puis elle n'aura pas de moyen de s'échapper de cette condition de femme au foyer, dans une situation quasiment d'esclavage, hein, entre, vous l'avez dit, entre son mari et ses enfants, hein, qui la prennent pour la bonne à tout faire.
Oui.
Oui, et puis elle appartient à un milieu populaire, elle n'a pas d'instruction, on le sait, elle le souligne, et c'est d'ailleurs ce qui fait toute la différence avec la maîtresse du mari qui est une institutrice et donc une femme instruite. Et elle le confie à Gabriele et qu'elle se sent humiliée par cette trahison qui est une double trahison, évidemment une tromperie, mais une trahison aussi parce que le mari couche avec une femme instruite, ce qu'elle n'est pas. Et c'est aussi en cela que le livre matérialise un changement possible, mais qui restera une libération intérieure, d'une certaine manière, et elle va vivre avec le secret de cette aventure qu'elle a vécue avec Gabriele.
Comment vous le trouvez, Gabriele, dans ses derniers instants dans son appartement, Arnaud ?
Au moins, il n'est plus suicidaire. C'est-à-dire que, autant au début du film, on voyait qu'il voulait échapper à ce destin, donc à cette déportation, là, il part en déportation. Et il part avec des livres aussi. Ça, c'est très important parce que ça fait le lien, finalement, avec le personnage de Sophia Loren. C'est évidemment à un niveau symbolique très, très fort, puisque c'est à nouveau le livre, l'instruction, la littérature comme possibilité d'échapper au fascisme environnant.
Donc c'est fasciste. Et au-delà du livre, ce sont les arts, puisqu'il emporte également un tableau.
Oui.
Tout à fait, ouais.
Oui.
Que l'on entend hein, dans l'audition de l'extrait, on entend bien, il prend un journal et puis recouvre la toile qu'il ficelle avec de la ficelle pour pouvoir le transporter. Donc voilà, donc il y a des petits souvenirs comme ça de sa vie d'avant. Qu'est-ce qui est essentiel dans sa vie ?
Pour poursuivre sur cette remarque que vous venez de faire, il me semble aussi que les arts et la littérature, c'est aussi le contrepoint au discours de propagande qui est constamment véhiculé par la radio, par les médias. Il me semble aussi qu'il y a un jeu de cet ordre-là. La radio qu'on entend depuis le début du film, combinée aux hymnes, donc qui constitue cette bande sonore hein, qui rappelle, on l'a dit, la présence constante de la société fasciste. Et puis cette possibilité d'échapper à un mode de pensée unique à travers la littérature, à travers l'art. Il me semble que c'est aussi une image forte et importante en termes de symbolisme à la fin du film.
L'objectif de Scola, quel était-il avec ce film ?
Alors, l'objectif, c'était de produire un discours, de faire réfléchir en tout cas les Italiens de l'année 1977, fin des années 70, sur l'état de la société italienne. Donc à ce moment-là, la démocratie est déstabilisée par ce qu'on a appelé les années de plomb, hein, qui vont perdurer jusqu'au... première moitié des années 1980. C'est l'époque de la stratégie de la tension, donc c'est une période de profonde instabilité politique et sociale. Et donc l'idée, c'est de proposer un éclairage par le biais du passé sur le présent et de faire réfléchir sur cette menace constante d'une résurgence du fascisme. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Et il nous semble que le film continue de faire sens par rapport à notre réalité aujourd'hui, hein, et la réalité de nos sociétés, hein, au pluriel. Et c'est aussi en ce sens-là que Lillo Bor a souhaité remonter la pièce, inviter les spectateurs et les spectatrices à réfléchir sur l'état de nos sociétés, aussi bien en Europe. Alors l'Italie est particulièrement concernée plus que jamais aujourd'hui sous le gouvernement Meloni, mais c'est aussi le cas des voisins européens, des États-Unis et de sociétés sous d'autres latitudes.
Des élections européennes que nous avons connues il y a quelques mois, des élections législatives post-dissolution, là aussi connues il y a quelques mois.
Oui, c'était vraiment la volonté de Lillo Bor et c'était la volonté aussi de notre livre, en fait, dans notre démarche. Dans le fait de faire un historique des différentes, déjà de la réception du film et ensuite des différentes mises en scène en France, c'était vraiment voir comment l'œuvre faisait sens et proposait des sens différents selon les époques. C'est-à-dire qu'effectivement, comme l'a dit Diane, aujourd'hui en 2023, enfin en 2023 pour la mise en scène de Lillo Bor, on retrouve d'une certaine façon le sens que le film a produit en 1977 en Italie, c'est-à-dire éclairer via le passé, éclairer le présent. Ce qui n'était pas vraiment le cas, par exemple, dans les années 80, 82 notamment, quand la pièce a été créée en France, dans la mise en scène de Françoise Petit, puisque Françoise Petit nous a dit qu'à cette époque-là, c'était le début des années Mitterrand, et elle avait conçu, or certes, la situation des femmes et la situation des homosexuels en France, tout n'était pas réglé, mais il y avait quand même une sorte d'euphorie, un espoir permis, qui bien évidemment n'est pas le cas en 2023, qui n'était pas le cas en 2023. Donc c'était ça un petit peu qui nous intéressait avec ce livre, c'est-à-dire de voir comment une même œuvre, au fil du temps, a pu produire des sens différents et trouver des résonances différentes selon les publics et les contextes.
Et ce départ de Gabriel est entouré des deux policiers. Quelle vision vous en avez dans le film et dans la mise en scène de Lillo Bor ?
On se disait que le dénouement choisi par Lillo Bor dans l'adaptation théâtrale était plus violent que dans le film, puisque assez étrangement dans le film, on a vraiment l'impression que Gabriele est désormais prêt, se prépare tranquillement devant les policiers qui l'attendent eux-mêmes tranquillement et lui accordent le temps nécessaire. Lillo Bor opte, semble-t-il, pour une représentation de ce moment-là plus chargée de violence, ce qui, me semble-t-il, fait aussi davantage ressortir le discours critique sur la condition des homosexuels aujourd'hui. Il me semble que c'est en ce sens-là, en tout cas, qu'elle avait échangé avec nous. Elle voulait vraiment faire réfléchir ses spectateurs, ses spectatrices à la question des droits, des acquis sociaux des femmes, d'une part, et des homosexuels dans nos sociétés. Et elle disait justement avoir été assez saisie aussi par les réactions du public, notamment des jeunes gens qui étaient très surpris du dénouement, de la déportation, parce que pour eux, la déportation était forcément associée à des situations de génocide ou de guerre, et prenaient conscience que dans la première moitié du XXe siècle, on pouvait déporter des personnes pour des raisons liées à leur sexualité, à leur identité. Donc c'est sans doute aussi un parti pris de sa part de faire ressortir cette violence, mais pour montrer que les droits et les acquis sociaux concernant les homosexuels sont plus que jamais mis en danger. Et c'est particulièrement le cas dans la société italienne à l'heure actuelle.
Oui, et cet éclairage sur l'actualité, C'était quelque chose qui, bien évidemment, était partagé par, en fait, par tous ceux qui sont intervenus sur cette nouvelle mise en scène. Pas seulement par Lilo Bor, mais dès le désir des deux productrices, Claire Béjanin et Valérie Six, elles ont pensé, et surtout Valérie a pensé, à une journée particulière parce que, à ses yeux, c'était une pièce qui permettait d'éclairer le présent. Que ce soit au niveau de l'augmentation des agressions homophobes, que ce soit à travers ce qui se passe pour les femmes, notamment en Iran, mais ailleurs. C'était vraiment une manière de faire réfléchir les spectateurs sur cela. Que ce soit pour les productrices, que ce soit pour Lilo Bor, que ce soit aussi pour les deux comédiens, Laetitia Casta et Roger Dizem, au-delà de leur admiration pour Mastroianni et Sophia Loren, ils étaient vraiment très sensibilisés à faire sens par rapport au présent. Ne pas envisager seulement cette pièce comme une pièce qui serait née d'un film de 1977, mais vraiment de faire résonner ces mots-là dans l'actualité.
Et je trouve, oui, vous parlez de violence dans la pièce. Oui, effectivement, le ou les, je ne sais plus s'il y en a un ou deux policiers qui viennent chercher Gabriele dans la mise en scène de Lilo Bor. Je trouve qu'au-delà du personnage d'homosexuel, c'est surtout l'ensemble des citoyens. C'est l'ensemble des droits qui paraissent effectivement définitivement acquis, mais qui ne le sont jamais. On dépasse le cadre d'une femme et le cadre d'un homosexuel. C'est l'ensemble des citoyens dont les droits, par un régime politique autoritaire, peuvent être atténués, voire disparaître. C'est ça que l'on ressent.
Oui, absolument. Hein, le film présente une dimension universelle et c'est ce qui permet cette actualisation de mise en scène en mise en scène. Lorsqu'on change de langage, lorsqu'on passe du médium cinématographique au dispositif théâtral, et c'est ce qui permet effectivement de toujours faire sens, quel que soit le contexte, contexte français, contexte italien, et on peut effectivement étendre la réflexion à d'autres sociétés. Donc c'est ce qui fonctionne très bien. Oui.
Concernant la situation des homosexuels, vous en avez parlé en Italie, la situation des femmes aussi, les violences faites aux femmes, il y a eu tout un phénomène autour d'un film. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors vous faites référence au film de Paola Cortellesi, oui, C'è ancora domani, il reste encore demain en français, ça, oui. Voilà. Oui, tout à fait, qui a été un énorme succès en Italie et en Europe, hein. Je crois qu'il a fait plus de 5 millions d'entrées en Italie, et il se trouve que la sortie a coïncidé avec une triste affaire qui a été médiatisée et en Italie et à l'international, d'un féminicide commis sur une jeune étudiante, et il se trouve que l'ouverture du film de Paola Cortellesi, alors qui est en soi un hommage d'une certaine manière aussi à l'esthétique en noir et blanc, du néo-réalisme, voilà, comme ça cette peinture du parcours d'une femme à l'heure où les Italiennes conquièrent le droit de vote. Voilà, le film s'ouvre avec le réveil du personnage féminin qui est d'emblée maltraité par son mari et la journée qui démarre. Et il me semble qu'on peut y voir un hommage, un clin d'œil à une journée particulière d'Ettore Scola. Donc oui, c'est intéressant de voir comment ce film de 2023 réactualise ce propos qu'on peut mettre en résonance avec une journée particulière et évidemment mais ce discours, comme on le disait, qui se met à jour au fil des époques.
Qui perdure, oui. Ces récurrences de violence vis-à-vis d'individus que l'on considère comme étant marginaux ou devant être marginalisés, oui, effectivement. Et vous parliez des années de plomb. Il y a un autre cinéaste italien qui travaille beaucoup sur ces questions. Je pense à Marco Bellocchio.
Oui, mais que c'est un sujet qui reste vivace dans la mémoire italienne, qui est porté à l'écran. Alors, il n'est pas le seul. Hein. Je pense à sa série Aldo Moro, notamment.
Magnifique.
Dont le titre m'échappe. Mais oui, que j'ai trouvé magnifique, alors qu'il prend le parti pris intéressant de modifier totalement l'histoire par le biais de la fiction, voilà, avec des distorsions totalement assumées.
Et puis des points de vue différents dans chaque épisode.
Oui, donc, et qui montre qu'effectivement, l'histoire italienne reste une matière première pour le cinéma, pour les réalisateurs. Là, en l'occurrence, on parle d'un cinéaste qui a déjà une longue carrière à son actif, qui ne fait pas partie de la nouvelle génération, mais en tout cas qui continue de se saisir du médium cinématographique. cinématographique pour proposer des films ou des séries qui motivent un vrai discours critique et invitent à une réflexion sur l'époque et une époque qui n'est pas si lointaine. Donc oui, il y a tout un cinéma, je pense, qui réfléchit au bouleversement de la société italienne, au bouleversement historique, au bouleversement sociaux, sociétaux. Et d'une certaine manière, Ettore Scola, déjà dès la fin des années 70, s'inscrivait dans ce mouvement-là. Et on a aujourd'hui toute une génération de nouveaux cinéastes qui prolongent cette tendance critique. Alors chacun, évidemment, avec des propositions filmiques propres. Mais,
vous pensez à qui ?
Alors je pense à quelqu'un comme Matteo Garrone, par exemple, qui interroge la société italienne ou certains aspects, notamment les milieux marginaux, par exemple. Paolo Sorrentino avec Il Divo, par exemple. Voilà, on a comme ça ces réalisateurs qui livrent un discours politique ou sociale, en tout cas, avec une certaine portée critique, et bon, qui montre que l'Italie tente, en tout cas, de proposer à travers le cinéma un regard critique sur son histoire récente.
Oui, oui, et de s'extraire des kilomètres de télévision berlusconienne. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans cette dernière séquence, c'est que la boucle est bouclée. On avait, on l'a dit, hein, dans le premier épisode, qui nous a réunis, que la caméra pénétrait petit à petit, après nous avoir planté le décor de l'immeuble, dans l'appartement dans lequel Antonietta vivait avec sa famille. Et là, après avoir quitté, on a vu, et elle a découvert, ce qu'elle n'avait pas compris, c'est-à-dire que les heures étaient comptées pour Gabriel. Et donc Antonietta a vu son départ, et elle a compris que le départ était un départ définitif de la part de Gabriel, et entouré des deux policiers. Et donc à nouveau, la caméra va pénétrer dans son appartement. Et là, on comprend que voilà, l'asservissement, le joug patriarcal va reprendre le dessus. Elle va être obligée de rejoindre le lit conjugal, etc., etc. Quoi. Donc là, voilà, elle ne s'en sortira pas. Elle n'a pu s'éloigner que quelques heures avec ces ferments de liberté qui ont été semés par Gabriele, à travers sa légèreté, la littérature, etc., etc. Ouais. Comment vous la trouvez, cette mise en scène de Scola dans son film ?
C'est une très large question.
On a parlé de pièces. Voilà, l'unité de temps, de lieu.
Alors, c'est très, très cinématographique. Hein. C'est vraiment... enfin, évidemment, comme on disait auparavant, il y a cette unité de lieu qui peut faire penser à du théâtre, mais sa mise en scène, son découpage, c'est très très cinématographique, ne serait-ce que le premier plan qui va du drapeau que déploie la concierge jusqu'à la fenêtre et l'intérieur de l'appartement, il y a quand même tout de suite une proposition cinématographique qui n'a rien à voir avec le théâtre. Et puis ensuite, même par la suite, l'utilisation de l'appartement, des volumes, des pièces, des cloisons, des fenêtres et du vis-à-vis avec l'extérieur, tout est pensé à un niveau cinématographique. Chaque plan est travaillé, le cadre, le champ est d'une composition absolument époustouflante.
Et on a aussi tout un travail, toute une rhétorique du voir. Alors, c'est propre au médium cinématographique, mais il y a aussi une attention spécifique qui est portée à cela dans le film. Parce qu'on est, dès le départ, en fait, avec ce premier plan magistral, on se retrouve dans une position de voyeur, on accompagne la caméra pour se glisser dans un appartement, on se retrouve nous-mêmes dans la position de ses voisins qui s'épillent entre eux. Donc il y a aussi tout un jeu, justement, sur le voir, le montrer, le cacher, et qui me semble très cinématographique aussi.
Oui. Et au niveau du son aussi, le son est extrêmement bien travaillé. On l'a dit auparavant sur l'écoute du premier extrait, mais en fait, il y a une chose qu'il faut souligner et qui est très importante dans le contexte du cinéma italien, encore des années 70, c'est que Scola a tourné son film en son direct, ce qui était quasiment unique dans le cas du cinéma italien, puisque le cinéma italien, tout était post-synchronisé dans quasi la totalité des productions cinématographiques. C'est-à-dire que pour nous, et encore plus pour les spectateurs italiens des années 70, il y a un effet de réalisme dans la voix des comédiens qui ne peut pas être celui qu'on peut trouver dans un dans une post-synchronisation, même si dans le cas d'acteurs exceptionnels comme Mastroianni et Sophia Loren, qui bien évidemment ont déjà été amenés à se post-synchroniser très fréquemment dans leurs autres films italiens, et donc ils maîtrisent cela. Là, il y a une impression de réalisme qui est absolument remarquable dans le contexte du cinéma italien. Et une autre difficulté au niveau du son qui était difficilement adaptable pour le théâtre, c'est l'importance de la radio. Puisque l'idée du mixage dans un théâtre est beaucoup plus compliquée que dans un film. Sur une bande son, on peut vraiment travailler sur les différents volumes et donc donner une présence
Premier plan ou plus ensourdie
à la radio dans une salle de théâtre, c'est dans un théâtre, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est une des autres difficultés dans l'adaptation d'une journée particulière au théâtre.
Mais dans mes souvenirs de la pièce, vue en décembre 2023, donc au Théâtre de l'Atelier, la radio est omniprésente. Hein. Enfin, omniprésente quand les comédiens ne s'expriment pas. Enfin, oui. Je trouve que ce jeu entre la présence de la radio tonitruante et qui s'immisce dans tous les interstices de la vie de ces deux appartements, elle est bien rendue.
Oui, c'est transposé finalement avec une certaine fidélité. Alors même si le terme est toujours discutable lorsqu'on parle de transposition entre on passe du cinéma au théâtre ou à l'aide de la littérature au cinéma, mais effectivement le procédé est repris. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est combiné visuellement à des projections que Lila Bor a intégrées à sa mise en scène, donc sur en arrière-plan, des projections qui ont été conçues par un vidéaste et qui à travers des représentations figuratives, alors de l'oiseau, mais aussi de l'aigle impérial, d'obus, de casques militaires, d'avions, etc., crée aussi toute une iconographie autour du contexte militaire, historique, politique, et qui ne fait que mieux ressortir aussi tout cet arrière-plan historique.
Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cet immeuble qui n'a pas encore été dit ?
Que c'est un immeuble réel, mais je crois qu'on l'a dit avant.
Ouais, le Palazzo Federici, non ?
Voilà.
On l'a dit ?
Oui.
Non, on ne l'a pas vraiment dit.
Disons-le alors. Donc, qui est un immeuble typique de l'architecture mussolinienne. Donc, qui fait là aussi sens dans la construction de cette spatialité filmique qui renvoie à une époque. Donc, il y a une référentialité qui permet par le seul espace de l'immeuble en fait, de convoquer toute une époque, en plus des procédés sonores, de l'omniprésence des hymnes, de la voix du licteur Guido Notari en arrière-plan, etc.
Est-ce que c'est une prison ou est-ce que c'est un village, pour reprendre les termes d'une des autrices d'un chapitre de votre ouvrage ?
Oui, alors les deux, d'une certaine manière. Prison pour ces personnages, pour ces protagonistes qui sont victimes de la société, cet appareil de contrôle permanent. Et en même temps, village, parce que les familles cohabitent, comme on le disait aussi, que se surveillent les unes les autres, des sociabilités internes se créent. Donc oui, l'immeuble est intéressant à différents égards dans l'analyse.
Oui, malgré le fait d'être conçu justement comme un appareil de contrôle des populations, ce que nous montre Scola, c'est que la population se l'approprie et il y a du social qui se crée au détriment de l'architecture même.
Oui, c'est ce qu'on ressent dans le dernier extrait quand elle lit son ouvrage, son regard traverse la cour et elle va jeter un œil surveiller au sens amical du terme Gabriel. Et donc là, on a l'impression quasiment qu'ils sont en train de se faire un petit coucou, de se tendre la main, alors même qu'il y a plusieurs dizaines de mètres entre eux.
Et c'est ce même immeuble qui aura permis leur rencontre et l'épanouissement de cette relation sur une journée avec tout ce qu'elle entraîne par la suite, en tout cas comme potentialité de libération, comme on l'a précédemment signalé.
Merci en tout cas,
merci
Diane
à vous.
Bracco, merci à vous. Arnaud Duprat, de nous avoir accompagnés dans le décryptage de ce film et dans cette nouvelle mise en scène théâtrale que nous pouvons retrouver donc dans l'ouvrage que vous co-dirigez aux éditions universitaires de Dijon. Et évidemment, nous ne pouvons que inviter les auditeurs à voir ou à revoir ce duo de monstres sacrés dans cet immense film de Scola. Merci à Marin Hirsinger qui nous accompagne fidèlement derrière ses claviers. Au revoir à toutes et à tous.